Gloire au Seigneur, bonjour à tous. Nous disons infiniment merci à Dieu pour ce moment dans sa présence. Nous disons merci à Dieu pour notre Père, Pasteur Camille et tout le corps pastoral. Merci à Dieu pour tous, vous tous, la grande famille qui nous soutenez jour et nuit. Merci pour vos prières. Merci de votre présence régulière dans le programme de l'Église. Et je suis convaincu que le Seigneur est à l'œuvre pour quelqu'un. Il est en train de faire des choses dans ta vie. Tu peux toi-même réaliser que tu as complètement changé quand tu as commencé à venir. Et après tous ces jours, tu as réalisé qu'il y a des choses qui changent dans ta vie. Tel est le plan de Dieu. Dieu ne veut pas des gens qui ne progressent pas. Il ne veut pas des gens qui ne s'améliorent pas. Il veut des gens qui tous les jours franchissent un pas de plus dans leur marche, dans leur communion, dans leur service pour Dieu et avec Dieu. Gloire au Seigneur. Et nous avons commencé, comme vous le savez, notre programme de 21 jours. Et notre séminaire a commencé déjà. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'achever la première semaine de notre séminaire où nous avons commencé par un thème intitulé « Suis-je un sujet de célébration pour Dieu ? Est-ce que Dieu me célèbre ?» De la même manière, en tant que parents, plusieurs fois nous avons l'habitude de célébrer nos enfants pour des exploits. Il a fait un bon travail, vous le félicitez, vous le célébrez, il a réussi à l'école, vous le célébrez, bravo, vous êtes meilleur, vous êtes le champion, vous êtes formidable. Dieu comme notre Père, est-ce qu'il nous célèbre aussi? Est-ce qu'il arrive que Dieu me célèbre pour dire bravo Pacifique, bravo, tu es le meilleur, tu te sanctifies, je vois comment tes bonnes œuvres sont en train de me plaire, tu es obéissant, tu es soumis, tu me sers bien d'un cœur pur. Est-ce que Dieu te célèbre? Ou bien, ça c'est le cadet de nos soucis, on n'a pas besoin d'être célébré par Dieu. Vous allez remarquer que nos enfants à la maison, lorsqu'ils sont célébrés, ils sont encore poussés à faire mieux. Parce qu'ils ont envie de recevoir ces célébrations. S'il a bien fait que vous lui avez dit bravo, félicitations, d'ailleurs tu auras un petit cadeau, sache qu'il va trouver quelque chose d'autre qui puisse te plaire afin que tu fasses mieux pour lui. Et notre Dieu, lui qui veut encore nous célébrer davantage, est-ce que nous lui donnons ces occasions-là pour qu'il nous célèbre? Ou bien on vit seulement pour vivre, le reste c'est à lui de voir, c'est à lui seul d'apprécier, moi je n'ai pas à m'y faire. Et ça a été notre interrogation pendant toute cette semaine où nous avons parlé de beaucoup de choses à la fois. Mais en interrogeant la Bible, j'ai vu plusieurs fois que notre Dieu éprouvait cette envie-là de nous célébrer. Où il est en train de demander, écoutez, si vous faites ça, moi, ça me plaira et je viendrai vous célébrer. Vous serez agréable à mes yeux. Pareil avec Job, on voit Dieu à l'occasion de rien, il se met à célébrer Job au devant du diable, de Satan. Il le célèbre. As-tu vu mon serviteur, Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il n'y a personne. Est-ce que Dieu peut dire de toi, il n'y a personne comme toi dans ta famille? As-tu vu tel? Il n'y a personne comme lui en RD Congo. As-tu vu tel? Il n'y a personne comme lui dans ton secteur d'activité. S'il y a des commerçants, alors lui, c'est un commerçant intègre. Est-ce que Dieu peut dire ça? S'il y a des enseignants, lui, c'est un enseignant intègre. S'il y a des professionnels, lui, c'est un professionnel intègre. S'il y a des magistrats, des avocats, lui, c'est un avocat intègre. Est-ce que Dieu peut te célébrer comme ça? C'était ça la question qui a conduit nos partages pendant toute cette semaine. Et ça devrait revenir à chacun de se poser cette question. Dans le domaine de ma vie, dans le service, dans mon ministère, est-ce que Dieu peut se dire sans se tromper que s'il y a des ministres, lui-là, c'est un ministre intègre, il n'y a personne comme lui. Tout enfant de Dieu qui se dit enfant de Dieu digne de nom, cette question doit toujours animer son cœur, toujours animer sa vie. Seigneur, est-ce que je suis digne de ta célébration? Et c'est très important, que de vivre pensant que bon, il est, le Seigneur, lui, il sonde les cœurs, il va apprécier. Non. Et nous avons vu par la suite comment est-ce que Job a même mérité la célébration de Dieu. Et la Bible est en train d'ajouter chaque fois, après chaque étape, il dit, dans tout cela, Job n'adressa aucun, ne pécha point contre Dieu. En dépit des épreuves, pendant que l'ennemi pense que cette célébration, c'est parce que tout est bien chez lui, c'est parce qu'il n'a aucun problème, parce que Dieu l'a béni et Dieu le protège, Dieu dit, je ne pense pas. Je sais voir comment le cœur de cet homme est attaché à moi, au-delà de tout le matériel qu'il a. Au-delà de tout le bien, les millions qu'il a, lui-là, ce n'est pas à cause de millions, ce n'est pas à cause de matériel. Son cœur, de manière naturelle, est déjà attaché à moi, Dieu. Et je peux te le prouver. Et il a dit au diable, vas-y, essaye. Et j'aime quand je suis en train de voir, même quand il a organisé des histoires horribles à la compte de Job et sa famille, la Bible dit dans tout cela, Job ne pécha pas contre Dieu. On évolue, il crée d'autres choses. Mais enfin là, on souligne, on dit, dans tout cela, Job ne pécha pas contre Dieu. Et ça, j'aime. Gloire au Seigneur. Si aujourd'hui le Seigneur te ravissait ou récupérait tout ce que tu as de précieux, je ne sais pas c'est quoi chez toi, chacun sait à quoi son cœur est attaché. Est-ce qu'on peut conclure de la manière de Job pour dire que malgré tout cela, tu ne pécheras pas contre Dieu? Qu'est-ce qui t'attache à Dieu? Il y en a qui s'attachent à Dieu par peur du lendemain. Et il dit non, je pense que si je vais loin de Dieu, je risque de perdre mon boulot et ça va devenir compliqué. Si je ne m'attache pas à Dieu, avec la maladie que j'ai, c'est compliqué. Si je ne m'attache pas à Dieu, avec ce problème et les requêtes qui ne sont pas encore exaucées, je risque de tout perdre. C'est déjà une mauvaise raison d'attachement à Dieu. Parce que si Dieu permet à l'ennemi de toucher à ce point, resteras-tu toujours attaché à lui? C'est la grande question que nous devons nous poser pour comprendre. Et nous avons proposé 13 secrets, 13 clés, selon que la Bible est en train de décrire. Pour arriver à cela, pour arriver à s'attacher à Dieu, là où Dieu dira... Vous ici, vous m'êtes agréable. Avec ce que vous faites là, vous m'êtes agréable. Pour que Dieu y arrive, nous avons parcouru. Et jusque-là, on en avait déjà vu 12. Il nous restait un secret. Il y en a plein, mais j'ai sélectionné les 13. Nous avons commencé par dire, vous ne pouvez pas plaire à Dieu, vous ne pouvez pas être agréable à Dieu si vous ne ressemblez pas à Christ, si vous ne reflétez pas Christ, si vous n'avez pas Christ comme modèle, si vous n'avez pas Christ comme exemple. Il est très facile pour les enfants de Dieu de se trouver un mentor dans un domaine de la vie, même sur le plan du ministère, même sur le plan de séculier, il est facile de se trouver un mentor et au bout de 6 mois, vous allez voir la personne commencer déjà à ressembler à ce mentor-là. Tellement que vous êtes concentré à la personne et il vous inspire, vous allez commencer à faire comme lui, agir comme lui et faites très attention à certains détails pourvu que vous puissiez parvenir à l'incarner. C'est très facile ça. Mais pour les enfants de Dieu de ressembler à Christ, il est très difficile. Très difficile. Et on estime que non, ça c'est le Saint-Esprit qui doit s'en occuper. Non. Nous avons lu 1 Jean 2, 6 qui dit, celui qui demeure en lui, en Jésus, doit marcher aussi comme Jésus. Là, on ne s'y concentre pas. Quand c'est Jésus-là, on fournit moins d'efforts pour le ressembler. Mais s'il faut que je ressemble au pasteur Camille, je l'étudie avec énergie, force, au point que les gens commencent à remarquer son image à moi. Je commence à parler comme lui, je prends même son accent. Je fais tout, hein. Je prends même son accent, tout ça. Ici, on a vu des gens qui ont commencé à parler comme tel. On peut le voir, on dit, ah là, c'était, ça c'est l'accent de tel. Ah, il a pris, papa, on te connaît, tu ne parlais pas ça. Comme ça, tu n'avais pas cet accent. Tu dis, comment elle n'a pas mort, tu n'avais pas ça. Je sais d'où tu tires cette histoire-là. Mais quand on revient pour lui, mais pourquoi on ne se concentre pas pour ressembler à Christ et refléter son image? Ça, non. Ça, on essaie un peu de s'y consacrer, après on lâche, on dit non, ça. Mais s'il faut commencer à parler comme tel, à vivre comme tel, et on peut le voir facilement chez les humains. C'est parce que Dieu nous demande. Dieu nous demande de ressembler à Christ, d'imprimer son image. Et que le monde voie cette image. C'est quand le monde verra l'image de Christ imprimée en nous, par nous, que le monde dira, ici, il y a Dieu. Nous devons aller pour notre salut. Mais comment voulons-nous évangéliser par des versets bibliques, mais on ne voit pas cette impression? On ne voit pas l'image. On dit, oui, tu es excellent, tu parles de Jésus, on sent que tu connais la Bible, mais on ne voit pas Christ. Et c'est là la faiblesse de l'Église aujourd'hui. C'est ça la faiblesse de l'Église. On peut bien parler, mais est-ce qu'on imprime Jésus? Et nous avons vu comment est-ce que nous devons imprimer Jésus. Ensuite, nous avons dit, il est difficile de le faire si on n'est pas spirituel. L'Église doit tout chercher à être spirituelle parce que nous sommes esprits. Nous ne sommes pas la chair. Même si nous portons la chair, mais en réalité, en nous, c'est l'esprit. Et nous devons vivre de manière spirituelle, prier de manière spirituelle, servir de manière spirituelle, faire les choses de manière spirituelle. Ça veut dire, il doit y avoir cette démarcation avec ceux-là qui ne sont pas spirituels. Ta façon de concevoir les choses, ta façon de percevoir les choses, ta façon de faire les choses doit être différente de celle du monde. Et c'est ça être spirituel. Gloire au Seigneur. Et pour devenir spirituel, il faut y investir. Nous avons dit, nous devons plus investir dans notre esprit que dans notre chair. Par la méditation de la parole, par la prière, par cette conscience de la présence de Dieu, par la vie permanente dans la communion avec Dieu, par cet aiguisement entre frères, cette vie de communion fraternelle. Ça nous permet de devenir forts spirituellement. Lorsqu'on proclame un programme de 21 jours, toi, ça ne te dit rien. Viendra le programme de 40 jours, ça ne te dira rien. Le programme de 3 jours, ça ne te dit rien. Tu veux vivre ta vie à ta manière. Et au-delà de ça, tu veux devenir spirituel. Par quelle magie? Tu ne lis pas la Bible, tu n'as pas le temps de méditation, tu n'as pas un programme personnel. Toi et Dieu, il n'y a pas de moment de rendez-vous. Tu veux devenir spirituel. Par quelle magie? Ce n'est pas parce que tu es passé par les eaux de baptême et tu en es sorti, directement tu deviens spirituel. Non. L'esprit est là, mais l'esprit est faible. La chair pour toi est forte. C'est comme ça que tous les désirs de la chair sont facilement accomplis. Pourquoi? Parce que l'esprit est impuissant. Il n'est pas suffisamment nourri. Gloire au Seigneur. Et c'est là qu'on peut voir quelqu'un, après 20 ans de conversion, 25 ans, 10 ans, 5 ans, la personne est restée au même stade. Incapable de prier même 5 minutes. Incapable de lire la Bible même pendant une heure. Incapable de respecter ne fût-ce que le programme de l'église. Incapable, tout ce qui se rattache au spirituel, faible. C'est le genre de personne, depuis 20 ans jusqu'à aujourd'hui, supportez-moi, monichukulie, moniombeye, monichukulie, moniombeye. Mais on va te supporter jusqu'à quand? Même Jésus a dit ça aux disciples. Jusqu'à quand vous supporterai-je? Devant un petit défi, il dit, mais c'est ridicule pour vous. Jusqu'à quand? Vous devriez déjà être autonome, indépendant spirituellement. Fort. Veut dire, je peux être attaqué par un démon, je l'affronte par moi-même. On est attaqué par les démons, on fait recours. C'est qu'on secours. Il n'y a pas des gens qui sont qualifiés pour faire face au diable, au démon. Il n'y a pas une catégorie de gens qualifiés pour ça. Tout le monde est d'office qualifié. Oh. Mais ce verset ne se rapporte pas au ministre, au pasteur. Non. Voilà, vous allez résister au diable et il fuira. C'est seulement vous les intercesseurs. C'est écrit nulle part. Vous tous là, les croyants, tous ceux qui croient, vous tous là, nés de nouveau, vous tous là, sauvés, vous avez déjà ce pouvoir-là. Vous pouvez dire à cette montagne-là, hey. C'est tout le monde qui est qualifié pour ça. Mais est-ce que ton esprit est suffisamment fort pour affronter ce genre de défi? Est-ce que ton esprit est suffisamment fort pour affronter un piège tendu par l'ennemi dans ton service? C'est comme ça, facilement, on peut tomber dans un piège. Tu es venu le matin, l'esprit n'était pas fort, on t'a piégé sur ta chaise, paf, tu t'y mets AVC, pouf. L'esprit faible. L'ennemi sait que ton esprit est faible. Mais quelqu'un qui a un esprit fort, même si la chaise est piégée, s'il s'y met, retour à l'expéditeur. Parce que l'esprit est fort. Quand il arrive, on sent qu'il y a une puissance qui arrive. Et l'ennemi ne peut pas résister. Mais cet esprit doit être nourri. Gloire au Seigneur. L'esprit doit être nourri. Galates 6, 8 dit, celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair. Il y a des gens qui sont trop attentifs à tout ce qui concerne la chair. Et ils sont même respectueux des régimes. Et il fait beaucoup d'attention. Les exercices physiques là, corporels, c'est tout le matin, jogging, cross. Le soir, chuma. Alors, ça c'est la chair, c'est pas mauvais. Comment tu gères l'esprit également? C'est quoi le programme pour ton esprit? Si le programme est respecté pour la chair. Le matin, moi, je ne prends que des concombres, des carottes, n'ai pas de mayonnaise, n'ai que du mingi. Ok. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que j'ai beaucoup de cholestérol. Il n'y a pas de problème. Cholestérol, ça, tu en as peur. Tu sais que non, il n'y a pas de cholestérol. On n'a pas de cholestérol. Bon. Alors, tu respectes. Et le soir, là, je mange trop léger. Et tu respectes. Merci. Et on voit que ta chair, là, bien battue. Ok. Et l'esprit? L'esprit est battu de quelle manière? Qu'est-ce que tu manges maintenant pour ne pas avoir les cholestérols spirituels? Qu'est-ce que tu prends? Parce que l'esprit, c'est encore plus dangereux s'il est attaqué. La chair là, même s'il est attaqué, et que l'esprit est à bonne santé, ça ne fait rien. Même si ta chair est attaquée, si l'esprit est à bonne santé, l'esprit va guérir la chair. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Mais si ton esprit est attaqué et que ta chair est en bonne santé, ta chair ne saura pas guérir l'esprit. Impossible. Bien-aimé, je voulais nous inviter à un régime spirituel personnel. Un régime spirituel personnel. Qu'est-ce qui me fait grandir? Qu'est-ce que Dieu a prévu pour que je croisse spirituellement? Et là, l'apôtre Paul dit, vous ne devriez plus être à ce stade-là. Comment vous ne voulez pas grandir? Grandissez l'esprit fort. Nous avons dit qu'il faut manifester le fruit de l'esprit, qui est l'amour, la joie, la paix. Comment voulez-vous qu'un esprit qui n'a pas grandi manifeste le fruit? Impossible. Si tu n'arrives pas à prouver de l'amour, c'est parce que tu ne veux pas d'abord grandir et croître. Il faut que tu atteignes les stades de maturité, que tu sois mûr, ton esprit soit mûr, pour que cet esprit-là produise les fruits dignes de repentance. Mais lorsqu'on n'y travaille pas, comment voulons-nous donner ce qu'on n'a pas? Tu veux donner la paix que tu n'as pas? L'amour que tu n'as pas? Il faut que cet amour-là soit créé en toi pour le donner ensuite aux autres autour de toi. Et ça, c'est évident. Le contraire n'est pas possible. Quatre, nous avons dit qu'il faut obéir à ses parents et respecter les autorités établies. Nous avons insisté là-dessus, disant que le Seigneur prend plaisir à tous ces enfants-là qui savent respecter les parents, qui savent respecter les autorités établies. Et nous avons dit que le modèle de ça, on doit le trouver à l'église. C'est à l'église que l'on doit nous trouver comme des personnes très bien éduquées. On ne peut pas venir à l'église et venir avec sa casquette de directeur d'entreprise. Non. On vient à l'église, on est frères et sœurs. On ne vient pas à l'église comme pour dire que, bon, nous sommes VIP, nous sommes plus importants. À l'église, ça n'existe pas. À l'église, on est frères et sœurs, une seule famille et on va au ciel. Quand tu seras dans ton entreprise là-bas, tu vas garder ton titre de directeur là-bas. Mais quand tu viens à l'église, ici, comprends que nous sommes devant le roi de rois. Le Père, c'est lui qui est au-dessus de tout le monde. C'est lui qui a le pouvoir sur notre souffle de vie. Et donc, on doit au minimum respecter les autorités établies et le principe établi. Tout le monde doit être soumis à cela. Et donc, je ne devrais pas avoir mon programme à moi. En principe, le culte commence à 9h, mais moi, je viendrai chaque fois à 10h15. C'est ce que j'ai choisi. Dieu regarde cette rébellion et cette résistance à l'autorité. Et nous devons le faire. Nous avons beaucoup parlé là-dessus. Pour que l'église soit bénie, il faut que cette église soit une église des enfants de Dieu, pas une église des adultes libéraux. On n'a pas besoin d'adultes ici dans la présence de Dieu, on a besoin des enfants. Lorsque le pasteur dit « Église, demain, tous allons évangéliser. On va se mettre debout demain à partir de 9h, nous allons évangéliser. » Dites pas, ça c'est leur programme. Si tu reconnais nouveauté et que lui c'est l'autorité établie ici, tu ne vas pas dire « ça c'est son programme, moi j'ai d'autres programmes. » Et pourquoi d'ailleurs il ne nous consulte pas? Je ne comprends pas. Bon, vous pensez que parce qu'on est pasteur, vous venez seulement, vous mettez là, vous dites « bon, jeune de 21 jours, est-ce qu'il a eu notre avis? » Bien-aimé dans le Seigneur, ici il s'agit de Moïse. Il s'agit de Moïse. Si tu sais que tu vas avec nous à Canaan, c'est que Moïse demandera à Dieu la prochaine étape et il viendra simplement nous communiquer ce que Dieu a dit. Alors si tu veux devenir aussi Moïse de ton coin, tu peux aussi trouver ton coin. Mais si tu dis « je suis enfant, je viens à l'église », ça veut dire dès lors qu'on a communiqué une pensée de Dieu que nous devons exécuter, il n'y a pas débat. Et si tu veux résister, tu peux le faire, mais j'aime Dieu. Nous avons lu le passage la fois dernière, il dit clairement « je m'occuperai de toi ». Et ce cœur de résistance, c'est ce que Dieu punit sérieusement. Nous devons respecter l'autorité établie. Une vision dans une autre crée la division. On ne peut pas venir à l'église, avoir sa vision et dire, bon, moi je vais marcher comme ça, sinon vous aurez Dieu sur votre chemin. Il va vous résister là-bas. Vous avez le choix de décider de votre manière. Nous avons dit cinquièmement qu'il faut chercher à progresser, à s'améliorer quotidiennement. Vous voulez devenir enfant de Dieu, que lui agrée tous les jours de votre vie. Travaillez de manière à vous améliorer. Ne restez pas sur place. N'ayez pas une vie où vous vous dites, ma vie ici, ça va déjà. Non. Dieu veut qu'on avance davantage avec lui. Et c'est là que j'ai martelé sur certains aspects où l'on supporte, l'on comprend, on appelle défaut. J'ai dit non, il ne s'agit pas de défaut, il s'agit de péché. Et je l'ai dit clairement, la Bible soutient d'ailleurs, aucun défaut n'entrera au ciel. Aucun défaut. Aucun défaut. Ça c'est mon défaut, comprenez-moi, je suis comme ça, c'est mon défaut, je suis escroc, c'est mon défaut. Je n'arrive pas à payer les dettes des gens. Ça, c'est mon défaut. Ça, c'est mon défaut. Je suis colérique. C'est mon défaut. Il n'y a pas de défaut. Parce que Dieu a déjà dit ça, non. Si on garde, on trouvera son ciel pour y entrer. Pas le ciel de Dieu. Gloire au Seigneur. Nous avons dit qu'il faut agir sans se soucier du regard des gens. Beaucoup d'entre nous sont prêts à plaire aux hommes. Vous faites des choses pour avoir le point auprès du leader, auprès du chef, auprès de tel. Vous ne savez pas être franc, dire la vérité et vous vous appelez enfant de Dieu, chrétien sauvé. Dieu ne nous invite pas à plaire aux hommes si cela va de plaire à lui. Et je le dis clairement que les hommes que nous servons trouvent leur compte dans le plaisir de Dieu. Quand ça plaît à Dieu, ça doit forcément plaire à cet homme s'il est sauvé. Je dis bien s'il est sauvé. Ne cherchez pas à plaire d'abord à ton mari pour déplaire à Dieu. Même femme, la Bible dit, soumettez-vous, mais dans le Seigneur. C'est que le Seigneur doit d'abord commencer par trouver son compte. Et ensuite, le mari, la femme, tout le monde trouvera son compte là-bas. Qu'est de chrétien ? Nous faisons des choses. Il faut d'abord qu'il y ait quelqu'un qui m'observe, qui peut m'apprécier, qui peut m'encourager, qui peut me coter. Alors là, je sens que le courage est là, les ailes viennent. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Dieu veut qu'on le regarde lui chaque fois que nous faisons tout ce que nous devons faire. Et dès lors que je sais que ça, Dieu est d'accord avec moi. Même si l'homme ne l'est pas maintenant avec moi, après un temps, il finira par comprendre que non, 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 non. C'était la bonne voie. C'était la bonne décision. Cherchons à plaire premièrement à Dieu. Et c'est très important. Ne venez pas à l'église parce qu'il y a quelqu'un qui doit être là, parce qu'il y a quelqu'un qui doit prêcher, il y a quelqu'un, alors je veux venir. Non, venez pour Dieu. Suivez Dieu. Faites les choses pour Dieu. Les hommes auprès de quels vous trouvez, vous cherchez des encouragements, sont mortels, passagers, ils partiront. Et quand ils seront plus là, vous allez faire comment? Vous allez abandonner? Ça n'a pas de sens. Venez pour Dieu. Veillez sur son cœur afin de le garder pur. Veillez sur son cœur afin de le garder pur. Nous devons parler de rester humble et soumis à Dieu comme septième clé. Huitième clé, on a dit qu'il faut veiller sur son cœur afin de le garder pur. Proverbe 11, 20 dit, ceux qui ont le cœur pervers sont en abomination à l'Éternel, mais ceux dont la voix est intègre lui sont agréables. Veillez sur son cœur. Nous avons dit que le cœur pur, c'est le cœur qui voit Dieu et qui verra Dieu. Le cœur pur, c'est le cœur qui n'a pas... qui ne médite pas le mal, qui ne prémédite pas le mal. C'est le cœur qui n'a pas de souillure. C'est le cœur qui pose des actes de générosité sans arrière-pensée. C'est le cœur qui fait du bien, mais qui ne cherche pas quelque chose en retour. Il est fait parce que c'est un ordre de Dieu. Il est fait par amour, par plaisir de le faire. Un cœur pur, ça ne conçoit pas l'iniquité, ça ne conçoit pas le péché. Même quand le diable essaiera de suyer le cœur, il va veiller. C'est pourquoi on a dit veiller. C'est que ça ne sera pas toujours à l'état pur. Mais nous devons nous y veiller. Nous devons y veiller tous les jours. Dès qu'on sent que son cœur est en train d'être terni, on sent que son cœur est en train d'être noirci par quelque chose, il est de notre devoir de nous lever pour dire non, c'est pas ça, pas ça, pas ça. Et c'est important. Marcher dans la vérité et être sincère et franc, c'était la neuvième clé. Proverbe 12 dit, les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Avoir une foi solide, 10e clé, on en a parlé. Et nous avons parlé de la foi de grain de sénévé. Nous l'avons expliqué, nous l'avons démontré. Comment est-ce que Dieu n'a pas besoin d'une grande foi? Et il n'existe pas de dose pour renforcer la foi. Il existe la foi. Non, moi j'ai seulement une petite foi. Alors il faut que Dieu augmente. Jésus n'a jamais augmenté de foi à quiconque. Non. Et il a même dit à Pierre, on te réclame, moi je vais prier pour ta foi. Je vais prier pour toi. C'est pas que je vais t'ajouter pour que tu aies une foi solide, grande. Non. Je vais seulement prier. Mais c'est la même foi, là, la petite là, qui a la capacité de se reproduire et de créer beaucoup de solutions autour de toi auprès de devenir un grand soutien pour plusieurs. La foi de grain de sénévé. Et 11e, nous avons dit être généreux et se soucier de personnes dans le besoin. Les gens qui sont généreux, on a expliqué longuement c'est quoi la générosité, qu'est-ce que Dieu recherche, comment il faut donner, qu'est-ce qu'il faut donner, le principe pour être généreux. Nous avons dit que quand tu donnes, c'est au service des œuvres de Dieu. Quand tu donnes à un pauvre, la Bible dit que c'est à Dieu que tu prêtes. Tout ce qu'on fait, c'est au service, dans le cadre généreux. C'est à Dieu qu'on le fait. Ça, c'est la Bible. Dès Corinthiens 9, 6, 10, le dit. Deuxième principe, nous avons dit que c'est les comment et non les combien qui révèlent le cœur. Comment tu donnes compte plus que combien tu donnes. Gloire au Seigneur. Comment tu donnes compte plus que combien tu donnes. Parce que tu peux donner 10 millions de dollars à quelqu'un avec un cœur qui le méprise, ça ne compte pas aux yeux de Dieu. Et celui qui a donné 1 dollar avec plein d'amour, Dieu dit, ici je bénis, je prends plaisir. Quand nous donnons, nous générons de l'adoration. Nous avons dit, Dieu a besoin que nous puissions donner davantage pour que ces gens-là l'adorent. Quand tu donnes, quand tu poses un acte de générosité, il y a l'adoration qui monte vers Dieu. Et il veut que ça se multiplie. Il aime ça. Vous provoquez de l'adoration dans la vie de quelqu'un pour le compte de Dieu. Et Dieu vous bénit avec ça. Il vous bénit. Nous avons dit 4e principe. Ce que nous donnons révèle notre foi. Si tu es incapable de donner 100 dollars à quelqu'un ou à l'œuvre de Dieu, alors 100 dollars est encore puissant que ton âme. Et tu ne crois pas que Dieu est capable de pourvoir au-delà de ça. Tu penses, non, 100 dollars quand même, c'est beaucoup d'argent. Ça veut dire que tu es encore captif à un certain niveau là. Dieu t'a convaincu de donner 1000 dollars, tu prends, tu donnes 10 dollars. Et tu te bats en toi, tu te bats, Dieu regarde et dit, maman, il n'a rien compris au fait. Il n'a rien compris. Ce que tu donnes révèle ce que tu es. 2 Corinthiens 9, 13 peut clairement expliquer. Et enfin, nous terminons avec ça. 13e secret. Servir Dieu avec justice, paix et joie dans le Saint-Esprit. Servir Dieu avec justice, paix et joie dans le Saint-Esprit. pas seulement servir Dieu, mais servir Dieu avec justice, droiture, paix, joie dans le Saint-Esprit. Ce qui compte pour Dieu, nous devons le savoir, ce n'est pas premièrement tout ce que nous avons comme principe, comme régime alimentaire, comme interdit, comme repas, ne pas manger ou à manger. Non. Il y a beaucoup de gens qui se sont embrouillés dans ce domaine-là. Vous voyez, moi, je suis un bon serviteur. Pourquoi? Je ne prends pas de l'alcool. Ah, c'est ça qui définit que tu es bon serviteur. Vous voyez, moi, je suis un bon serviteur. Pourquoi? Parce que moi, je ne mange pas kibonde. Il y a ma gamba. Nous, on ne mange pas l'engoulou. On est bon. Dieu n'est pas là. Embriez-vous comme vous voulez. Mais Dieu cherche dans ce que vous faites la justice, la droiture. Donnez-vous les interdits comme vous voulez. Mais si la justice n'est pas là dans ce que vous faites, c'est zéro. Si la droiture n'est pas là dans ce que vous faites, c'est zéro. Et c'est ce que Dieu recherche chez nous. Vous pouvez tout chercher. Mais est-ce que son royaume est là dans ce que vous faites? Lisons ce passage. Romains 14, 17, 18. Lisons ce passage. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Romains 14, 17, 18, la Bible déclare: car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Donc, non seulement que Dieu va le célébrer, mais aussi les hommes vont l'approuver. Ce n'est pas l'affaire de manger et de boire. Ce n'est pas l'affaire, non, il s'habille comment, il se tresse comment, il se coiffe comment. Ce sont des futilités. Comment il a mis ceci, il a mis cela. Dieu n'est pas là-bas. Où est la justice dans votre marche avec lui? C'est ce qui compte pour Dieu. Qu'il y ait des gens qui pensent que le fait qu'on est dans l'église, tout le monde a mis son foulard, le mouchoir de tête, avec des jupes qui balayent, alors là, on peut voir la sainteté là-bas. Et qui t'a dit ça? C'est ça la religion. Et je vois comment Dieu s'est beaucoup attaqué aux religieux, pharisiens et les autres, qui pensaient que la piété d'apparence, donc par apparence, vous savez vraiment que le frère est sauvé. Vous pouvez dire clairement avec sa grosse Bible sous les aisselles, chemise yaoumou, nimbo yaouko vumbili ouku. Et les gars, ils marchent, ils vous saluent avec beaucoup de sainteté. Shalom. Ça, c'est pas loin de la folie. C'est pas loin de la folie. Où est la justice dans ta vie? La droiture, elle est où? Je vais terminer avec le pourquoi servir Dieu. Pourquoi nous devons le servir quand il demande ça? En fait, nous devons tous, comme nous sommes là, servir Dieu. Premièrement, parce que Dieu nous a aimés. Point barre. On ne donne pas la raison de cet amour. La Bible n'explique pas pourquoi Dieu nous a aimés. Mais la Bible dit seulement que Dieu nous aime. Vous comprenez un peu ça? Dieu nous aime. Alors, comme il nous aime, c'est que nous sommes déjà dans une relation d'amour avec lui.
Or, il n'y a aucune relation d'amour qui peut subsister sans qu'il y ait des gestes concrets. Imaginez que vous vous aimez, mais personne ne fait rien pour l'autre. Ou bien il n'y a que l'un qui ne fait que faire, l'autre ne lui retourne rien. Moi je te sers, moi Dieu, je te donne la bonne santé, d'abord je te sauve, je te donne mon royaume, je suis là chaque matin, je renouvelle mes bontés pour toi, je prends soin de toi, je te donne du travail, je te donne de l'argent, mais toi là, en retour, rien. C'est quel type d'amour? Tumuku, tumukwe. C'est quel type d'amour où il n'y a pas de retour? Vous comprenez que tout le monde est obligé de le servir. Hein? Tout le monde. Si tu te reconnais dans cet amour-là, tu es obligé de servir Dieu. Ne pense pas que quand tu quittes chez toi, tu viens à l'église, tu es assis, tu écoutes là, je sers Dieu parce que je vais à l'église. Oh. Encore le fait de venir ici, c'est lui qui est en train de te servir. C'est ça, s'il y a quelqu'un qui comprend. Le fait de t'asseoir là-bas, hein, c'est Dieu qui est en train de... N'est-ce pas qu'il est en train de te nourrir maintenant? Mais au retour, quand tu penses que c'est une affaire de ministre, de ouin, non. Toute personne sauvée qui se reconnaît dans cette relation d'amour avec Dieu est dans l'obligation de le servir. Et je veux dire à quelqu'un, c'est dommage que tu ne puisses pas réaliser pendant tout ce temps que cet amour-là est monosens parce que tu n'as pas encore répliqué. C'est la raison pour le servir. Il n'y en a pas deux. Si vous êtes dans cette relation d'amour avec Dieu, c'est que vous devez le servir. Gloire au Seigneur. Le service est une forme de prière. Quand vous servez, vous priez. Quand vous servez Dieu, vous priez. Et je nous encourage de venir servir dans l'église. Servez Dieu dans l'église. Intégrez les départements. Servez. C'est l'un des meilleurs endroits pour servir. L'église. Servez Dieu. Si vous voulez être agréable, servez Dieu. Il y a des avantages qui ne sont accordés qu'aux serviteurs. Si quelqu'un me sert, le Père va l'honorer. Mais toi, on est là, honneur à toi. Mais honneur en fonction de quoi? De quel service? Venez servir, on vous invite. Savoir faire plaisir, c'est très important. Si vous voulez servir, sentez-vous que vous le faites avec plaisir. Choisissez les domaines qui vous plaît. Vous aimez ça, allez là-bas. Le temps que le Saint-Esprit vous fixe, il n'y a pas de problème. J'aime être au protocole. J'aime prier pour le malade. J'aime être dans les orphelinats. J'aime chanter. J'aime prêcher. Aller là où tu te sens bien. Mais sers Dieu. Le temps venu, il va te fixer où est-ce qu'il te veut exactement. Et troisièmement, prépare-toi à souffrir par rapport à ces services. C'est important. Oui, savoir souffrir aussi. Ça ne sera pas toujours plaisant. À un moment, tu le feras parce que tu t'es engagé à le faire. Il y a des moments où le pasteur nous invite dans des réunions où tu sens dans toi que tu ne veux même pas venir. Mais tu viens seulement parce que tu es engagé, tu dois venir. Vous avez besoin de dormir, il vous dit, on va veiller. Prépare-toi à ça. Mais curieusement, c'est les jours où tu n'as pas eu beaucoup de plaisir que le Seigneur te visite et tu es béni. Et tu regrettes, tu te dis, si j'avais raté Siméon, si je n'étais pas parti au temple aujourd'hui pour servir, est-ce que j'allais voir Jésus? S'il avait un motif ce jour-là, c'était son tour d'aller au temple. Est-ce qu'il allait voir Jésus? Je nous prie de ne pas être des spectateurs. Servons Dieu, parce qu'il va nous demander des comptes un jour. Gloire au Seigneur. Nous allons prier. Baissons-nous tous dans la prière. Demande à Dieu de te donner à pouvoir t'engager à travailler sur le 13 éléments que nous avons vus. Pour ceux qui ont été empêchés toute la semaine, vous avez toutes les vidéos dans notre groupe de l'église, depuis le début jusqu'à la fin. Et aujourd'hui, on a fini avec le service. Pendant que le pasteur s'avance, je veux te prier de commencer à voir et à examiner chez toi-même. Comment tu es en train de servir ces dieux? À quoi est-ce qu'il t'a appelé? Parce que tout le monde est serviteur et tout le monde a été appelé parce que tout le monde est dans cette relation d'amour avec Dieu.
Prie le Seigneur, élève ta voix. Il y a des gens qui ont des fois demandé, « Pasteur, je veux bien servir, mais où servir ?» Venez d'abord, parlez pasteur Hardy, pasteur Pacifique, et ils pourront vous orienter. Mais dans ces 13 secrets pour être célébrés par Dieu, le Seigneur nous a parlé. Et je sais que quelqu'un a eu une révélation, une directive, une inspiration pour laquelle il a besoin de prières pour l'honorer et la respecter. Si tu es là et que tu sais ce que le Saint-Esprit t'a communiqué, lève la main, je vais prier avec toi et je vais prier pour toi afin qu'il te donne cette force. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Baissez vos mains. Je vais également donner l'opportunité à quelqu'un ce matin qui voudrait entrer en alliance avec Dieu. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire que nous ne pouvons pas, impossible, impossible d'être considéré comme enfant de Dieu sans passer par Jésus. Ce n'est pas parce que tu es membre d'une église ou bien que tu fais certains sacrifices ou que tu donnes des offrandes, etc. La seule manière, c'est d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alors si tu es là ce matin et que tu n'as pas honte de faire cette déclaration et de faire ce pas de la foi, lève la main là où tu es, je vais prier avec toi. Je vais également prier pour toi. Jésus deviendra ainsi le Seigneur de ta vie. Gloire au Seigneur. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Tu veux prendre cette décision qui va changer le cours de ton existence et te garantir l'éternité avec Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Si je vous ai vu, vous pouvez baisser la main. Si nos yeux se sont croisés, vous pouvez baisser la main. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué. Nous allons répéter cette prière pour accompagner nos bien-aimés qui ont fait de ce jour un jour inoubliable en acceptant Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Répétons ensemble cette prière. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur. Sois mon Seigneur. Sois mon sauveur. Je renonce à Satan. Je renonce au monde. Je renonce au dictat de la chair. Je veux te servir. Pardonne-moi mes péchés, mes iniquités et mes transgressions. Fais de moi une nouvelle créature. Père, je te prie pour mes bien-aimés qui ont pris cette décision ce matin, afin que leur entrée dans le ciel qui a provoqué la joie au ciel, Seigneur, puisse également donner naissance à des serviteurs qui vont maintenant se donner entièrement et complètement à toi. Et pour nous tous qui avons levé la main, Seigneur, pendant ces 13 secrets que nous avons appris de ta part pour être célébrés comme tu as fait pour Job, Seigneur, aide-nous, nous avons besoin de toi. Là où tu nous as touchés, là où le Saint-Esprit a révélé ce qu'il fallait faire, donne-nous la capacité, la force de pouvoir changer ce qu'il faut changer, modifier ce qu'il faut modifier. Nous venons nous repentir auprès de toi, Seigneur, et t'avouer que sans toi, nous ne pourrons rien. Mais avec toi, toutes choses nous sont possibles. Que cette fin d'année, nous puissions marcher dans la victoire, sachant que toi, tu nous célèbres pendant que nous, nous te célébrons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur très fort ?